Chapitre 7. Dos à la baie vitrée, Hollister savoure la situation, impatient de voir Tom Buckle prendre la mesure de l'épreuve qu'il va traverser, enthousiaste à l'idée de la chasse qui l'attend, tous les sens aiguisés au point d'avoir l'impression de sentir sur lui le poids infime des flocons qui descendent lentement du ciel, de humer l'odeur du sang qui dessinera des taches écarlates sur la toile blanche du tapis neigeux. Le mouvement brownien, explique-t-il à son interlocuteur, est l'un des mécanismes premiers de la nature. Il s'agit du mouvement aléatoire d'une particule plongée dans un liquide. Le meilleur exemple de ce phénomène est celui des ribosomes, ces micro-organismes en forme de gants qui existent en très grand nombre dans le cytoplasme des cellules humaines. Ce sont eux qui fabriquent les protéines. Hollister marque une pause, le temps de tremper les lèvres dans son verre, et Buckle en profite pour manifester son étonnement. Décidément, vous avez fait des recherches poussées pour votre scénario. Les yeux bleus de Hollister pétillent de joie. Il a conscience que son sourire charmeur ne lui a jamais été aussi utile. « Mon but est de vous convaincre de partager cette aventure avec moi. Pour en revenir aux ribosomes, chacun d'eux est composé d'une cinquantaine d'éléments. Si vous séparez les composantes de plusieurs milliers d'entre eux et que vous les mélangez dans un liquide en suspension, ces éléments ricochent sur le liquide et se cognent entre eux jusqu'à ce qu'ils s'assemblent et reconstituent le puzzle original. C'est ce phénomène que l'on nomme le mouvement brownien, celui-là même qui permet aux divers éléments du mécanisme de contrôle de Bertolt Schenck de retrouver tout naturellement sa place sans risque d'erreur. Schenck ? Demande Buckle. Hollister a laissé échapper le nom de l'inventeur des mécanismes de contrôle. Il s'empresse de rectifier le tir. En travaillant sur le scénario, il m'a fallu donner des noms à mes personnages. C'est l'identité que j'ai donnée au chercheur qui a mis au point cet implant cérébral. Le cinéaste fronce les sourcils. Le nom fonctionne bien, mais c'est curieux. J'ai l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part. Il faudra s'assurer qu'il n'existe pas déjà un vrai Bertolt Schenck. Hollister balaie l'argument d'un geste. Je ne suis pas attaché plus que ça à ce nom. Vous êtes mieux avisé que moi en la matière. Le jeune réalisateur, son assiette nettoyée, s'essuie la bouche avec sa serviette. Combien de temps faut-il à l'implant pour se reconstituer à l'intérieur du cerveau ? De 8 à 12 heures pour les implants de première génération, mais le processus s'est amélioré avec le temps. Disons qu'il faut 4 heures en tout. Le sujet ne conserve aucun souvenir de la piqûre. Une fois le mécanisme en place, il suffit de prononcer un mot de passe, par exemple « jouons au crime dans la tête » pour que le sujet fasse tout ce qu'on lui dit tout en ayant le sentiment d'agir de sa propre initiative. Le mot de passe fait naître un souvenir ravi sur le visage de Buckle. Cette référence au film de John Frankenheimer est géniale. Un crime dans la tête était une adaptation formidable du roman de Richard Condon, avec Sinatra et Laurence Harvey, ou encore Angela Lansbury dans le rôle de la mère autoritaire de Harvey. Le film date de 1962, me semble-t-il. Schenck avait le sens de l'humour. Je parle du personnage du chercheur, quel que soit le nom qu'on lui donnera. J'en ai la tête qui tourne, Wayne, mais de façon positive. Je commence vraiment à entrer dans l'histoire. Cela dit, quel est le rapport avec Jane Hawke ? Mai-Mai, alertée par la sonnette installée sur le pied de la table, vient retirer les assiettes. Tom, imaginons que les techno-arcadiens aient décidé de prendre le contrôle des principaux responsables politiques, religieux, financiers ou artistiques du pays. Pour réussir, il leur faut également empêcher certains individus charismatiques d'influencer les masses en leur insufflant des idées néfastes. Quelles idées néfastes ? S'enquiert Tom en adressant un sourire à Mai-Mai. toutes celles qui seraient susceptibles de contrevenir à la philosophie arcadienne. Par exemple, s'il est décidé que soumettre ces individus charismatiques ne suffit pas, qu'il faut également éradiquer leur génome en les empêchant de se reproduire, le plus simple est encore de leur injecter un mécanisme de contrôle et de leur donner l'ordre de se suicider.
Comme le mari de Jane Hawke, acquiesce Buckle. Mais comment déterminer quels individus il est souhaitable d'éliminer?
Par le biais d'un programme capable d'analyser leurs déclarations publiques, leurs convictions et leurs actions. Ce logiciel les place automatiquement sur ce que l'on nomme la liste Hamlet.
Hamlet? Pourquoi Hamlet?
Si Hamlet avait été tué dès le premier acte de la pièce, de nombreux autres protagonistes auraient été sauvés.
Buckle fronce les sourcils.
Il serait sans doute préférable de donner à cette liste une autre appellation pour les besoins du film. En dehors de ce détail, combien de personnes sont censées figurer sur cette liste?
Imaginons que, dans un pays comme le nôtre, le logiciel prévoit l'élimination de 210 000 leaders charismatiques par génération. Cela représente 8 400 personnes par an.
Un meurtre de masse? Dites-moi, Wayne, votre film n'est pas très gai?
Il ne s'agit pas de meurtre du point de vue des Arcadiens. Ils considèrent ce processus d'élimination comme un moyen d'éloigner de la masse tous les individus potentiellement dangereux, de façon à atteindre la paix et la stabilité.
Maïmaï apporte cette fois le plat, un bar servi avec des asperges et des raviolis miniatures fourrés au mascarpone et au poivron rouge. La conversation se poursuit autour des modifications nécessaires en ce qui concerne le personnage principal et l'intrigue.
Hollister introduit dans la discussion l'idée de la « chambre des murmures » qui constitue l'un des particularismes des implants cérébraux. Une forme de transmission par micro-ondes permettant aux modifiés de communiquer entre eux, comme Elon Musk, le fondateur de Tesla et de SpaceX, en a prédit la possibilité. Le concept ravit Buckle. De son côté, Hollister apprécie ce déjeuner infiniment plus que s'il avait vraiment l'intention de financer un long métrage.
Le cinéma constitue un investissement exécrable. Seuls 3 films sur 10 gagnent de l'argent, au mieux. Sans même parler des combines qui permettent aux distributeurs de truquer leurs recettes et d'augmenter leurs dépenses, rendant plus aléatoire encore la possibilité de bénéfices.
Tom ne cache pas son enthousiasme. Mettre au point un scénario avec lui est un plaisir.
Plus le jeune réalisateur s'exprime, plus Hollister se réjouit que son nom figure sur la liste Hamlet. Il ne passera pas la nuit, et c'est heureux.
Maïma y arrive pour débarrasser et Hollister se tourne vers elle.
« Il est temps de passer à ce qui était convenu, » lui dit-il. Elle a beau lui être entièrement soumise, elle n'est pas épargnée par la peur. Elle entr'ouvre la bouche comme si elle voulait s'exprimer, mais ses lèvres voluptueuses se contentent de trembler.
Hollister lui prend la main en lui adressant un sourire rassurant.
« Ce n'est rien, mon enfant, » lui dit-il d'une voix paternelle. « C'est le moment de nous montrer ce dont vous êtes capable. Vous êtes faite pour ça. »
Le tremblement disparaît en même temps que sa peur. Elle sourit à son tour et dépose un baiser sur la joue de Hollister. Ce geste laisse Buckle perplexe. La jeune fille remporte les assiettes en cuisine et le cinéaste cache son trouble en avalant une gorgée de vin.
« Je constate que Maïmaï excite votre curiosité, » déclare Hollister.
« Pas du tout, » se défend Buckle. « Cela ne me concerne pas. »
« Bien au contraire, Tom. Vous êtes même le premier concerné. Maïmaï a 27 ans, 1 an de plus que vous, et c'est une femme remarquable. »
Buckle lance machinalement un coup d'œil en direction de la porte par laquelle vient de s'éclipser la jeune femme.
« Elle est extrêmement belle. »«
Absolument, » lui fait écho Hollister. « Elle est surtout incroyablement talentueuse. »
Sa peinture redéfinit le réalisme, ses tableaux sont stupéfiants. Elle avait déjà remporté de nombreux prix à l'âge de 22 ans. Moins de 2 ans plus tard, les galeries les plus prestigieuses s'arrachaient ses toiles. Elle avait inventé un concept inédit en accompagnant certaines de ses plus grandes œuvres de performances qui attiraient des foules enthousiastes.
Elle continue de peindre?
Oh oui, mieux que jamais. Des œuvres magistrales.
Dans ce cas, comment se fait-il
qu'elle nous serve à table?
Je me posais la question.
Elle continue de peindre, mais elle ne vend plus ses œuvres.
Vous avez l'art d'entretenir le mystère, Wade.
La remarque fait naître un sourire sur le visage du milliardaire. J'ai l'impression que ça vous intrigue.
Énormément. J'aimerais beaucoup voir son travail.
C'est impossible. Chaque fois qu'elle achève une œuvre, elle la détruit. Buckle ne peut masquer son étonnement.
Pourquoi, diable?
Parce qu'elle fait partie des modifiés. Son nom figurait sur la liste. Le mot ne fait pas immédiatement tilt dans la tête du cinéaste. La liste Hamlet, insiste Hollister. À la surprise succède l'incompréhension sur les traits de Tom qui affiche un sourire perplexe.
J'avoue que vous avez le don de présenter un scénario, Wayne. Quant à Mai Mai, c'est une excellente actrice.
Mais elle n'est pas le moins du monde actrice, le contredit Hollister. Cette petite salope se contente d'obéir. Et si elle détruit ses toiles, c'est uniquement parce que je lui en donne l'ordre. Le regard de Tom Buckle se pose sur la baie vitrée.
Mais qu'est-ce qu'elle...
Il se lève de sa chaise. Wainwright Hollister l'imite et se retourne. Nue sur la terrasse sous un déluge de flocons, Mai Mai les observe, ses traits illuminés par un sourire d'une sérénité presque mystique.
Son corps est aussi parfait que son visage, commente Hollister. Mais la perfection finit elle aussi par provoquer l'ennui.
J'en ai assez d'elle. Mai Mai tient serré dans sa main droite un foulard de soie rouge. Elle le lâche et le foulard choit sur le manteau neigeux de la terrasse, laissant apparaître un pistolet.
Il s'agit d'une performance,
se dit Tom Buckle en son fort intérieur, refusant de croire à l'impossible. Les flocons continuent de s'échapper des nuages, dessinant dans le ciel des cascades de pétales blancs. Mai Mai glisse le canon de l'arme dans sa bouche, de laquelle s'échappe brièvement une flamme digne d'un dragon, avant qu'elle ne s'écroule au ralenti sur la terrasse, où la neige s'accumule rapidement sur sa dépouille.